De temps à autre, il est bon et juste de conduire à la rivière la langue française.
Les incidents avec les chiens se multipliaient. Un autre jour, par exemple, on tomba sur un corps de pachyderme qui reposait là depuis va savoir quand.
Cette autre femme au visage doux, enfantin, aux yeux humides et profonds, au front haut et pur, cette femme vivante, dois-je la laisser dans son monde ?
Au commencement, l'œil visita la moelle et je naquis. Un sexe émergea à l'opposé de l'œil pour regarder le temps.
Île où l'on ne descendra jamais, je lance mes chaussures par-dessus bord car je voudrais bien aller jusqu'à vous.
Eh bien bonjour, c'est Gulliver et il y en a pour une heure. Alors c'est un sommaire pas très drôle, mais bon, il en faut aussi. Le monde n'est pas tous les jours rigolo, il s'en faut de beaucoup. Donc notre invitée aujourd'hui sera Sylvie Crossman, qui édite un petit livre, mais un petit livre qui pèse très lourd. Il s'agit des immolations au Tibet, et sous-titré « La honte du monde ». Et vous verrez à quel point le sous-titre est justifié. Ce sera notre gros plan, donc, et au cours de notre grand angle, on élargira un petit peu la problématique tibétaine à la problématique générale des minorités en Chine et à la politique du gouvernement chinois à l'égard de ces minorités. Nous évoquerons le cas des Mongols et également le cas des Ouïghours qui a fait reparler de lui récemment à travers un attentat. Et pour finir, eh bien, nous ferons une revue de presse pas très amusante non plus, puisque j'évoquerai une enquête d'Annick Cogent pour Le Monde et qui évoque le viol en série en Syrie.
Gros plan.
Bonjour Sylvie Crossman.
Bonjour Alain Mathieu.
Quelques mots quand même pour vous présenter. Vous avez été longtemps journaliste et dans des pays où vous vous intéressiez aux cultures minoritaires, notamment en Australie. Nous en avons d'ailleurs bénéficié à Montpellier avec une très belle exposition. Vous êtes romancière également, puisque vous avez écrit, je crois, deux romans.
J'en ai écrit un troisième.
Et puis, on aura donc l'occasion peut-être d'en reparler. Et puis, vous êtes aussi éditrice, et c'est dans ce cadre-là que vous éditez donc un livre, un petit livre, dans cette collection fameuse où l'on a pu lire le fameux livre « Indignez-vous », c'est difficile de ne pas le rappeler. Ce livre s'intitule donc « Immolation au Tibet ». L'auteur en est une Tibétaine née à Lhasa et qui aujourd'hui est en résidence surveillée à Pékin. Et donc vous éditez ce petit livre avec une préface de Robert Badinter. Alors avant d'évoquer ce livre et la situation, ce que représentent ces immolations, parce que je crois que l'Occident se trompe un peu sur le message, puisqu'il y a un message quand même au travers de ces immolations, je voudrais vous citer, puisque vous avez écrit avec Jean-Pierre Barou un livre qui s'intitule « Le Tibet, une autre modernité », et donc je voudrais vous citer, vous écrivez dans le préambule: on répugne à croire aujourd'hui que deux modernités puissent se partager le monde. Aux yeux de la vaste majorité de nos contemporains, le progrès, c'est forcément l'état du développement humain qui incarne les sociétés de type occidental, Europe, Amérique, Japon, voire maintenant la Chine, et où la matière inerte et la raison dominante exclusive tiennent le rôle titre. Tout le reste, tous ces autres, pauvres humains qui néanmoins s'échinent comme nous à vivre à la surface de la planète sans pour autant entrer dans le modèle d'humanité issu des grands bouleversements industriels et idéologiques affectant à partir du XVIIIe siècle l'Ouest du monde, sont relégués dans un ensemble flou, mou, jugé au mieux prémoderne, en voie de développement, au pire arriéré, primitif, obscurantiste. Qu'on ait pu choisir sur le versant oriental de la Terre de fonder une société dans laquelle l'esprit, comme matière, non pas inerte, mais vivante, mais plastique, figure au cœur d'une histoire à part entière, toujours en scène au XXIe siècle, est proprement inconcevable pour nos consciences eurocentrées. Pour vous, le Tibet, c'est l'exemple même de ce monde-là qui n'a pas...
cédé.
Voilà.
Et qui ne cédera pas, je crois.
Qu'est-ce qui vous a le plus attiré? Comment s'est fait cette rencontre avec le Tibet, au fond?
Alors, d'un point de vue purement existentiel, la rencontre avec le Tibet s'est faite suite à notre rencontre avec les aborigènes d'Australie et par le biais d'une œuvre vivante, d'une œuvre qu'on peut appeler œuvre d'art ou peut-être œuvre de beauté, qui est le mandala. Mmh. Le mandala tibétain, dont d'ailleurs nous avions organisé la tenue aussi à Montpellier, dont les poudres reposent aujourd'hui dans la Méditerranée. Et donc, la notion de beauté dans ces sociétés-là est une notion très importante parce que c'est d'abord une pratique. Ce sont souvent des traditions, alors ce n'est pas le cas du Tibet, mais c'est le cas des aborigènes, des Indiens, des Amérindiens, des Inuits. Mais souvent, ces sociétés sont de tradition orale et l'œuvre, belle, porte, au fond, transmet un savoir. Et donc, c'est par le biais de ce mandala, on est passé des œuvres des aborigènes d'Australie au mandala, aux œuvres thérapeutiques des Indiens Navarro. Tout ça parce que ces œuvres transportent des savoirs et nous ont au fond, comme vous le disiez bien en citant ce passage important, je crois, de notre livre, ce préambule, que des sociétés qui ne sont pas assimilables à notre modernité ont néanmoins évolué et qu'elles ont évolué. Même si ça nous déplaît parfois, elles n'ont pas évolué dans le même sens que nous. Et cette espèce de conglomérat flou du progrès, qui serait au fond unilatéral, univalent, il y a un seul progrès, c'est celui dont l'Occident a pris la tête et que l'Occident transporte, ça n'est pas vrai. Et je crois que le Tibet, très tôt, enfin, c'est pas une croyance, c'est démontré, le Tibet, très tôt, s'est orienté vers un type de modernité qui mettait en son cœur le développement de l'esprit. Alors, ce qui a induit toutes sortes de faux sens, même de contresens chez nous, puisqu'on a cru qu'une société qui mettait l'esprit et le développement de l'esprit en son cœur était forcément une société de type spirituel ou une société religieuse ou réductible aux religieux. Alors là, on est vraiment dans le cœur du sujet parce que le Tibet aujourd'hui continue à se consacrer au progrès de l'esprit, mais dans une optique qui n'est pas forcément celle que nous, on entend par l'esprit et qui n'est pas forcément religieuse. Et d'ailleurs, en atteste les rencontres absolument passionnantes qui ont lieu depuis les années 80 entre des équipes de hauts méditants tibétains qui sont conduites par le Dalai Lama, ces rencontres entre ces grands méditants et nos neurosciences les plus pointues. Alors pourquoi ? Justement, le fait que nos sciences à nous aillent au fond vers des sociétés comme la société tibétaine pour mieux comprendre l'esprit, dont nous ne savons au fond pas grand-chose, mais un esprit qui, disent les Tibétains, est forcément ancré dans un corps. Il est inscrit dans un corps. Donc vous voyez, il n'y a pas dans la société tibétaine une dissociation comme on l'a fait dans nos sociétés occidentales, entre le corps et l'esprit, entre la chair et ce qui n'est pas la chair, entre la matière et ce qui n'est pas la matière. Et en ce sens, c'est vrai qu'à force de travailler avec eux, on a compris que c'était au fond des matérialistes, si l'on peut dire, mais d'un genre nouveau, au sens où l'esprit, il est porté par la matière.
Alors, je pense que c'est ce que vous venez d'expliquer est une clé pour comprendre ce livre, parce que... On pourrait se lamenter et dire « Oh là là, les voilà qui s'immolent », confondre ça avec un suicide, faire preuve de compassion, enfin, avoir peut-être le mauvais réflexe. Parce que ce que montre bien ce livre, et nous avons parlé de son auteur tout à l'heure, de Tsering Woser, c'est que c'est un message, c'est une façon d'expliquer ce qui leur arrive, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité de langage.
Oui, alors d'abord, c'est vrai qu'il faut reprendre, peut-être il y a eu d'autres exemples d'immolation par le feu, et je vous cite par exemple Jan Palach, ce garçon, ce jeune tchécoslovaque. D'ailleurs, ce soir et demain, il y a un formidable documentaire, fiction, sur l'histoire de Jan Palach, sur Arte, je vous invite vivement à le regarder, qui reprend cette histoire. Alors, l'immolation par le feu, c'est nouveau au sens où c'est devenu vraiment un acte massif au Tibet. Mais, encore une fois, les Tibétains disent que ça n'est pas une destruction, c'est une construction. Alors, je vous cite aussi une autre définition de l'acte de l'auto-immolation par un des grands abbés, enfin un des grands moines aujourd'hui tibétains, le chef, le patron du monastère Kirti, d'où sont issus d'où ont été issues les premières immolations au Tibet. Lui dit c'est un acte ultime de non-violence. Alors ça aussi c'est dérangeant pour nous, parce oui, que voir un être brûlé sous nos yeux, pour nous c'est un acte de violence. Eux disent non. Parce que ce n'est pas un acte de violence, parce que la violence se retourne contre soi-même. La non-violence, un acte ultime de non-violence, dans une société comme la société tibétaine, si on veut agir de manière très remarquable, au sens où se faire remarquer, se faire voir par le monde, on peut commettre un acte comme celui-ci, à condition que la motivation soit bonne. Et la motivation, c'est une motivation qui n'est pas personnelle. Et là, on en revient aux définitions que donnait Stéphane Hessel et dans la suite d'Aristote, qui séparait bien la colère de l'indignation, en disant la colère, c'est une expression c'est une expression qui va d'agressivité et surtout qui prend en compte des éléments d'agression contre soi, des intérêts personnels, si l'on peut dire. Alors que là, il ne s'agit pas d'intérêt personnel, il s'agit bien de l'intérêt commun d'une nation et d'un peuple qui est quand même soumis à un génocide culturel absolument effroyable depuis 1959. Donc c'est vrai qu'il faut préciser tout ça, acte ultime de non-violence, à la fois parce que s'il y a violence, elle se retourne contre soi-même, elle n'engage personne d'autre. Et puis ensuite, parce que c'est aujourd'hui le seul recours qu'ont les Tibétains pour manifester leur opposition à une politique d'oppression de la part des Chinois. Alors là, il faut repenser que cette vague d'immolation, elle est née après les événements de mars 2008. Vous vous souvenez, les Jeux Olympiques, les Chinois avaient... retirer le Tibet des yeux du monde. Ils les avaient parqués, ils les avaient entourés dans un système de quadrillage, de surveillance quadrillée quasi orwellien, hein, pour éviter qu'il ne saute sur cette occasion, au fond, pour se rendre visible à nouveau aux yeux du monde. Une répression terrible avec des morts, les militaires chinois avaient tiré dans des foules, tué beaucoup de moines. Et donc, 2008 avait marqué ce dernier, au fond, épisode de protestation, si l'on peut dire, un peu classique. Mmh. Et puis, à la suite de ça, les Tibétains, notamment les moines, avaient commencé à manifester de manière isolée. Alors évidemment, ils étaient là, ils étaient immédiatement attrapés par les soldats chinois, mis en prison, battus, torturés, voire tués. Et l'un d'entre eux, qui faisait partie de ce mouvement non-violent, a dit « il faut radicaliser cette révolution pacifique ». Et comment la radicaliser ? Eh bien, en commettant des actes isolés, mais particulièrement remarquables et remarqués. Et à ce moment-là, ils ont choisi cette forme de protestation. Mais Tsering Weser, dans son livre, qui est la première dissidente quand même du monde tibétain, dit aujourd'hui, c'est le seul recours qui leur reste. Donc, ce n'est pas, un choix, ce n'est pas un acte désespéré de fuite. C'est un acte de révolte, un acte c'est une manifestation isolée, mais la seule possible aujourd'hui encore. Vous voyez, c'est important, ça.
Mais précisément, ce qui est remarquable, c'est que ce qu'il le considère comme un acte non violent, c'est que, au fond, la violence, c'est celle qu'on exerce à l'égard d'un tiers. Alors que là, ils ne l'exercent qu'à l'égard d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, dans le livre, il est précisé que ça a posé une sorte de question quasi théologique. Est-ce qu'ils avaient le droit, compte tenu de leur conviction, de le faire ? Et donc, dans la mesure où on n'agressait personne, ils ne s'agressaient qu'eux-mêmes. Et donc là, ils avaient le droit.
Même d'un point de vue théologique, ça n'est pas en contradiction avec les principes du bouddhisme.
Tout à fait. Voilà. Alors, quelques mots quand même. Qui est cette Tsering Weser, donc, qui est-il née à Lhasa et qui vit aujourd'hui, poétesse, et qui vit aujourd'hui à Pékin sous haute surveillance?
D'abord, c'est effectivement la première dissidente tibétaine, au sens propre, qui vit à l'intérieur de la Chine, puisqu'elle vit à Pékin, en résidence surveillée, parce qu'évidemment, c'est allers et retours vers le Tibet, vers Lhasa, pour témoigner et constater de ce qui se passe ne plaît pas beaucoup aux autorités chinoises, même celles d'aujourd'hui, qui sont reçues en haut lieu et en grande pompe par notre président. C'est une poétesse, une femme extrêmement courageuse, qui par ailleurs est mariée à Wang Lixiang, qui est un des grands dissidents chinois et un des premiers dissidents chinois à s'intéresser vraiment à la question tibétaine. Alors là aussi, c'est une chose qu'on sait mal, c'est que la dissidence chinoise s'est intéressée relativement tardivement à la question du Tibet. Vous connaissez les jeunes dissidents chinois, enfin même ceux qui ont 60 ans aujourd'hui, sont nés avec la Chine de Mao. Et un des dogmes de la Chine de Mao était l'unité de la nation. Et au fond, cinq grands peuples la constituaient, dont les Han, le peuple majoritaire dominant au sein de la Chine, l'ethnie majoritaire. Et évidemment, donc, tous les autres étaient considérés comme finalement des non-chinois. Et les Tibétains, qui font partie des 56 minorités ethniques que compte aujourd'hui la Chine, faisaient partie de ce non-peuple. Et donc, même les dissidents chinois, enfin ceux qui sont devenus des dissidents, avaient grandi avec ce dogme. Et ce n'est que très récemment, grâce à ces actions devenues visibles, que les dissidents chinois ont commencé à s'intéresser au problème des Tibétains, qui est un problème, rappelons-le, essentiellement de droits de l'homme, non pas un problème de religieux uniquement qui veulent avoir le droit d'exprimer leur foi.
D'autant que jusqu'à présent, le Tibet n'a pas demandé une sécession vis-à-vis de la Chine.
Pas d'indépendance, une autonomie essentiellement une autonomie culturelle. Et qui est loin de leur accorder, puisque un des motifs de protestation, ce pourquoi beaucoup de Tibétains... Alors, rappelons-le aussi, il n'y a pas que des moines qui s'immolent. Aujourd'hui, la grande majorité des Tibétains qui s'immolent sont des laïcs. des agriculteurs, des nomades, des étudiants, des adolescents, des collégiens, et qui protestent notamment contre l'impossibilité de parler leur langue. Le fait que leur langue aujourd'hui soit reléguée loin derrière la langue chinoise et qu'ils soient interdits eux-mêmes de parler leur propre langue. Alors, rappelons aussi les chiffres, hein, quand même, qui sont assez effrayants. Hein, au 6 août 2013, quand Tsering Weser a signé son petit livre, on comptait 125 immolés depuis 2009. Donc. Alors, aujourd'hui, il y a une intensification de la répression de l'auto-immolation, parce que les Chinois ont compris que ce n'était pas très, au fond, très bien pour eux, pour leur image, ces immolations. Donc, dès qu'il y a le moindre signe d'une allumette, d'un brasier possible qui se prépare, ils prévoient, ils anticipent, ils interviennent, au point d'offrir, Tsering Weser le rappelle, au point d'offrir des récompenses absolument faramineuses à ceux qui peuvent détecter cette annonce. On paye. Alors, il y a deux types de récompenses pour les informateurs. Si quelqu'un sent qu'une immolation se prépare, uniquement une auto-immolation, on lui donne l'équivalent de 6 000 euros. Et si c'est la, je crois qu'ils appellent ça, alors j'ai oublié le terme, la totale, c'est-à-dire ça, plus avec un témoignage politique ou une déclaration politique, c'est l'équivalent de plusieurs années de salaire multiplié par 4. Je crois que c'est 24 000 euros qu'on leur donne pour rendre compte, informer l'État, l'État chinois d'une auto-immolation qui se prépare assortie d'une déclaration politique. Donc vous imaginez,
vu le niveau de vie du Tibet,
c'est extraordinaire, moyens qui sont déployés par la Chine. Alors le Dalai Lama vous dira, avec qui on a beaucoup parlé de cette question, dira... c'est sûr que ces pauvres Chinois, ils sont dominés par la peur. Et au fond, nous, on vaincra, on finira par vaincre, parce qu'on a un esprit beaucoup plus fort.
Alors en plus, ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'ils arrivent à prévenir relativement une de ces immolations, alors ils ramassent le corps et ça disparaît. Voilà. Et complètement. C'est-à-dire que les proches ne peuvent pas récupérer
c'est effrayant.
La personne immolée.
Par exemple, il y a encore le 16 mars 2014, deux personnes, encore deux moines cette fois-ci, se sont auto-immolées pour célébrer d'une certaine manière, pour marquer la commémoration, l'anniversaire des grandes émeutes de mars 59, les premières, qui avaient forcé l'invasion du Tibet par la Chine, qui avait contraint le Dalai Lama à quitter le pays. Donc deux moines s'auto-immolent. Et ce jour-là, les autorités de surveillance chinoises immédiatement confisquent les téléphones portables des gens qui étaient là. Ils ont très, très peur. Alors ça lie aussi la dissidence tibétaine à une modernité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est très... Dalai Lama le dit lui-même, si les Chinois pouvaient voir physiquement sur la toile, sur Internet, ces torches humaines, ces brasiers humains, il y aurait une révolution en Chine. Donc les Chinois savent qu'il faut supprimer les images. D'où l'intérêt, vous voyez, d'un témoignage comme celui de Tsering Weser, qui depuis le premier immolé tient le journal quotidien des personnes qui commettent cet acte avec son mari Wang Lixiang, qui documente ça, ils sont même allés interviewer les proches, parents, amis des immolés. Et ils ont recueilli certaines paroles, les dernières paroles des immolés. Et là, c'est très intéressant aussi parce que le premier motif, ça n'est pas que le monde les voit, c'est le passage à l'acte. Le passage à l'acte dans la révolte et dans la lutte contre l'oppression, contre le génocide culturel. Donc ça, c'est un moment nouveau aussi. Mmh. Et voyez, encore une fois, si... comme vous le disiez tout à l'heure, il faut changer aussi notre vision, penser que ce n'est pas forcément un acte de destruction, mais un acte de construction. Par exemple, tout ce mouvement des auto-immolations qui quand même a réussi à être vu. Hein. Tout se voit aujourd'hui
grâce à... Oui, parce que YouTube, on voit des images.
Oui, terrible. Hein,
elle le dit dans le livre.
Les voir régulièrement. Ouais, travaillent, les dissidents chinois et tibétains travaillent à la conservation des images, hein, justement pour les faire circuler. Il y a forcément des trous dans le système de surveillance, notamment sur Internet de la Chine. Tout ce mouvement a... produit un autre mouvement qui s'appelle le LACAR, qui est un mouvement de non-violence, d'unité dans la non-violence à l'intérieur même du Tibet. Alors là aussi, on a toujours cru que le Tibet était forcément globalement non-violent, ce qui n'est pas le cas. Hein. Les Kampa, par exemple, les grands guerriers Kampa qui appartenaient au Tibet historique, étaient traditionnellement des nomades qui maniaient le sabre avec grande efficacité. Et aujourd'hui, on assiste à un mouvement où les guerriers Kampa vont rendre leurs armes, brûlent leurs armes. Et donc, vous voyez, c'est déjà des effets, si l'on peut dire positifs, même si le malheur reste entier.
Alors, nous avons commencé notre entretien, avant de le commencer, on a entendu l'appel du lama. Je vous propose d'écouter maintenant une musique plus actuelle, qui a une apparence plus contemporaine avec une jeune chanteuse que voici. Voilà, il s'agit donc de Khunsok Lama, c'est une jeune tibétaine née en Inde et qui donc entretient la flamme de la musique tibétaine. Elle a participé à ce titre à la réalisation d'un CD qui s'est intitulé Tibet Libre avec beaucoup d'autres artistes. Et elle vit aujourd'hui dans le sud de la France où elle continue à son combat pour maintenir une activité musicale liée à ses origines. Et ce qu'on vient d'entendre donc évoque un grand moment du Tibet, puisqu'il s'agit de la séparation du Dalai Lama lorsqu'il est parti en exil et du Panchen Lama, qui est aussi une grande autorité bouddhiste, et qui lui est resté au Tibet et qui donc a été emprisonné.
Oui, ça c'est les bagarres intestines qui ont toujours existé et qui se renforcent aujourd'hui entre les autorités chinoises et les autorités religieuses tibétaines qui évidemment sont en contradiction avec un système profondément matérialiste et qui est profondément menacé aussi par cette survivance d'une nation entière, d'un peuple entier qui se consacre au progrès de l'esprit.
Alors voilà ce qu'écrit plutôt, puisque c'est un testament, l'un des immolés de 63 ans, qui est un vénérable, il s'appelle Thich Quang Duc, je ne garantis pas la prononciation, bien entendu.
Vietnamien, lui.
Voilà. Il dit « Sur le point de fermer les yeux et de contempler Bouddha, j'implore le président de traiter le peuple d'un cœur compatissant et de remplir sa promesse d'assurer l'égalité religieuse. J'ai déjà appelé tous les membres de la communauté monastique et l'ensemble des bouddhistes à se sacrifier quand il y aura nécessité pour la protection du bouddhisme. » On voit bien que c'est pas, il y a aucune agressivité, c'est simplement une quête, une requête.
Oui, et puis peut-être une étape aussi. Alors, c'est sûr que parfois les jeunes tibétains se montrent impatients et critiquent à l'égard de la politique du Dalai Lama. Alors là, il faut rappeler aussi ce que dit souvent parce qu'on on reproche au fond parfois au Dalai Lama d'avoir quitté le Tibet. Alors, lui dit que, justement, les premières années, puisque la première invasion du Tibet par la Chine date de 50, et entre 50 et 59, il a vécu au contact de cette invasion et il a essayé, de non pas de collaborer, mais d'entendre, au fond, ce que la Chine prétendait apporter au Tibet. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, souvent, il dit « Moi, je suis encore un communiste ». Dans le fond de mon âme, pas dans l'acceptation d'un système politique. Donc, il pensait recourir à une action de type gandhienne, Gandhi. Mais il dit la grande force quand même... Gandhi, il avait face à lui un ennemi qui était nettement supérieur, si l'on peut dire, au sens où les Anglais, quelle que soit la cruauté et l'iniquité du colonialisme anglais, c'était un système démocratique quand même. Et ce système démocratique permettait une presse libre, qui faisait qu'on pouvait exprimer des opinions contraires, qui faisait qu'on avait face à soi, quand on était Gandhi, un système juridique aussi, un système de droit.
Se défendre, oui.
Voilà. Or aujourd'hui, l'impérialisme chinois, il n'a ni presse libre, ni système juridique, ni juridiction qui permet à quelqu'un comme le Dalai Lama, au fond, d'adopter une position de non-violence interne, de résister à l'intérieur. Et ça, c'est important aussi parce que souvent, on lui reproche ça, d'avoir quitté, d'avoir laissé son pays. Et ils disent que cette non-violence, aujourd'hui, c'est une action extrêmement importante et à laquelle je ne veux pas renoncer. Parce que la non-violence, elle produit des modifications. Elle agit. Il dit la violence, on ne sait jamais ce que ça va engendrer. Ça engendre des choses terribles. Y compris le pire. C'est une violence qui engendre une autre violence qui se répète à l'infini. Tandis que la non-violence, elle commence à porter ses fruits. Le fait qu'aujourd'hui, des Chinois comme Wang Lixiang, le mari de Tsering Weser, l'auteur de ce petit livre, se consacre à la cause tibétaine et à documenter tous ces cas de démonisation, montre bien qu'il y a déjà eu des effets de la non-violence et des effets positifs. Donc c'est important ça, l'efficacité de la non-violence. Alors oui, nous ça peut nous sembler de la violence, mais vous savez que Gandhi disait entre la lâcheté et la violence, choisissez la violence qui ne met pas en péril votre propre conscience, qui permet à votre conscience de demeurer en scène et de continuer à évoluer et un jour, sans, peut-être, de renoncer complètement à la violence. Mais vous voyez, la non-violence, encore une fois, nous, on l'a rendue un peu bêtasse.
Oui,
hein, mais... On l'a confondue avec le pacifisme. Pareil, l'acceptation. Hein, mais ça, c'est une interprétation presque chrétienne. Hein,
j'allais le dire.
Voilà, on vous donne une gifle sur un joue, tendez l'autre. Oui, c'est pas du tout ça, la non-violence. Et elle le répète aussi. C'est une stratégie. Une stratégie complexe, une stratégie qui passe par des formes d'opposition et de lutte qui sont encore non connues, qui exigent de l'inventivité, qui exigent de l'audace. Et tout ça est en scène aujourd'hui au Tibet. Mmh. Hein. Et encore une fois, pas que de la part des religieux.
Hein. Et, oui, d'ailleurs, le fait que ces immolations soient partagé par n'importe quelle catégorie socio-professionnelle, montre bien que ce que les Chinois, d'ailleurs, ont du mal à comprendre.
Voilà, bien sûr.
Ils aimeraient bien que ce soit que des bonzes.
Voilà,
auquel cas, ça permettrait de le réduire à un fait religieux, alors que là, voilà. Non, ce n'est pas un fait religieux. C'est beaucoup plus large dans la société.
Bien sûr.
Ça se diffuse beaucoup plus.
Et... Beaucoup plus profond. Et ça continue. Hein, ça
alors, continue. Ce petit livre, donc, quand on l'a en main, il a ceci de particulier, c'est qu'il est en relief.
Oui, alors c'est vrai qu'on a voulu, on a voulu cette préface de Robert Badinter d'abord. Robert Badinter est un défenseur de longue date du Tibet. Alors encore une fois, du Tibet au sens où il pense qu'il y a une situation de violence faite aux droits de l'homme et qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, il agit et il se solidarise avec le Tibet. Encore une fois, enfin, Robert Badinter, ça n'est pas un religieux où on ne peut pas le taxer de devenir bouddhiste sur la fin. Et donc, ça aussi montre bien que, encore une fois, ça n'est pas une cause religieuse, c'est une cause des droits de l'homme. Hein. Ai Weiwei, qui est le grand artiste
contemporain
chinois, avec qui on est entré en contact directement, qui est un ami de Tsering Weser et qui a accepté de réaliser la couverture du livre et qui nous a envoyé donc un fichier spécial où il demandait que sa couverture, dans laquelle il avait incrusté les noms de tous les immolés jusqu'à ce jour, soit faite de façon très prudente pour que ces noms des immolés soient visibles, en transparence, qu'ils soient portés par ce livre. Ils brillent en relief. Et encore une fois, cette notion de visibilité, de lumière, est extrêmement importante. Hein. Mais encore une fois, lumière au sens laïque, au sens esthétique presque, au sens où l'esthétique est une éthique, pour que ces immolés soient visibles. Il faut qu'ils soient dans... ils sont le contraire des ténèbres. Hein. Ils sont ceux qui demeurent, ceux qui sont vus, ceux qui sont visibles, ceux qui sont lumineux.
Hein. Elle le dit d'ailleurs, Tsering, elle dit que les immolations, c'est destiné à éclairer le monde.
Bien sûr, hein, on les appelle des torches humaines, des torches vivantes. Je crois qu'eux disent, ils ont une espèce de langage codé, à la fois pour qu'on ne les comprenne pas encore, que tout le monde va les comprendre, ils disent une lampe s'est allumée quelqu'un s'est immolé.
Ce qui est le contraire de ce qu'on pourrait imaginer,
voilà.
Puisque une lampe s'est allumée, elle ne s'est pas éteinte. Alors que
tout à fait, et là encore on voit bien combien on a mésinterprété, on ne lit pas ces sociétés là où elles sont, et souvent on ne les comprend pas, et je crois qu'elles ont beaucoup à nous dire, beaucoup à nous apprendre, à la fois dans cette force, Tsering Weser a ce très beau mot, elle dit au fond, les immolés n'ont pas disparu de la terre tibétaine, bien au contraire, puisqu'elle parle de l'os du cœur. Elle dit le cœur est un os. Et un os, évidemment, on ne le supprime pas. Hein, il a une dureté, une indestructibilité. Et ces os du cœur sont là, ils sont dans la terre tibétaine, ils nous alertent aussi à une vigilance, à un courage, ils sont là. Voilà.
Comment est-ce que vous avez pu récupérer le manuscrit de ce petit livre ?
Alors ça a été, vous savez, tout est à la fois très compliqué et très simple,
Même
si Tsering Weser est en résidence surveillée. Nous, comme on travaille depuis très longtemps avec le Tibet, depuis 1993, on a nos réseaux. Et donc, on a contacté quelqu'un qu'on nous a recommandé au bureau du Tibet. Le bureau du Tibet nous a mis en contact avec cette personne. Cette personne qui vit à Londres nous a directement mis en contact avec Tsering Weser. On a communiqué par mail et elle a été d'accord pour nous donner ce petit livre qu'elle a écrit directement en chinois. Hein. On l'a fait traduire du chinois. Alors là aussi, la traduction a été difficile parce que beaucoup de traducteurs chinois, beaucoup de traducteurs français du chinois ne voulaient pas le traduire parce qu'ils avaient peur de ne plus pouvoir avoir leurs papiers et de ne pouvoir retourner travailler en Chine s'ils signaient la traduction d'un livre de Tsering Weser, d'un petit livre comme celui-ci. Et donc, on a mis un petit peu de temps à trouver une traductrice courageuse qui d'ailleurs n'a pas signé sous son propre nom. Hein, c'est un pseudonyme. Pour qu'elle ne soit pas trop repérée par les services de renseignement chinois, qu'elle puisse retourner travailler à l'intérieur de la Chine. Donc, vous voyez, c'est aussi une belle aventure, hein, une belle aventure qui montre bien que la non-violence peut entrer partout, par tous les interstices, même d'un quadrillage orwellien comme celui qu'exercent sur le Tibet les autorités chinoises.
Alors, on va voir que ça n'est pas, qu'il n'y a pas que le Tibet cette politique chinoise complètement aveugle, dont on reçoit aujourd'hui le dictateur en chef, on peut dire ça comme ça, avec tous les honneurs en plus, nous renvoie au sous-titre de ce livre, La honte du monde. Au fond,
c'est une honte.
On ne fait rien.
Bien sûr. Dans le livre, Tsering Weser cite. Le Time Magazine, qui en 2011 disait que le sujet des auto-immolations au Tibet avait été le sujet le moins traité de tout le journalisme, de toute la presse internationale. Donc vous voyez, aujourd'hui, Alain Maquier, vous faites œuvre importante, hein, nécessaire. Oui, c'est vrai qu'on ne fait rien. Hein. On accueille, on cède, alors qu'on pourrait quand même exercer des boycotts. On pourrait exercer une opposition non violente aussi hein, à ce qui se passe. Mais c'est vrai que l'argent chinois, c'est ce qu'elle dit. Hein. Elle dit, on sait, d'ailleurs avec beaucoup de classe, d'élégance, elle dit, on sait que vous êtes aujourd'hui les sociétés occidentales dans une crise terrible sur le plan économique, mais quand même, vous pourriez de temps en temps réagir à d'autres critères que celui de l'argent, que celui de l'économie, hein, et écouter, et nous entendre, et être là.
Mais l'arrogance des Chinois est terrible parce que j'évoquais cette visite du président chinois. C'est même à notre égard, il est extrêmement arrogant. Il a atterri à Lyon parce qu'il voulait aller visiter l'usine Peugeot dont ils ont acquis un fort pourcentage d'actions avant même de rencontrer le président français. Et il est allé de Lyon à Paris en train, me semble-t-il. Et donc, c'est une.
Mais là, nos gouvernements sont coupables d'une lâcheté extrême. D'ailleurs, et c'est intéressant, vous avez vu, il n'a pas voulu aller en Angleterre parce qu'il s'est dit les Royals sont un peu trop proches du Dalai Lama et donc ça fera mauvais effet. On va tout de suite sortir cette affaire qui me gêne beaucoup. Et donc, je pense, oui, que là, on est. Alors, vous vous souvenez aussi dans le livre, elle parle d'un Lhasa aujourd'hui qui est comme un ghetto. Au temps des nazis. Hein, et elle dit, elle nous interpelle en disant, et Ai Weiwei aussi hein, le dit, que la question du Tibet pose une question très grave à tous les défenseurs des droits de l'homme et à l'Occident, qui se vautre un peu trop hein, dans cette notion humanitaire. Nous sommes la notion le pays des droits de l'homme, mais en même temps, il se passe, quand c'est assez troublant, que des Tibétains aujourd'hui disent Lhasa, c'est comme un ghetto au temps des nazis. Hein. Il faut savoir que Lhasa est interdite aux Tibétains qui vivent à l'extérieur de la capitale. Or, c'est comme si, au fond, nous, hein, nous, Français, on nous interdisait, si on vit à Montpellier, d'aller à Paris. Et tout ça, parce que deux Tibétains ont réussi à pénétrer jusqu'à Lhasa, hein, qui est dans, donc, qui est considérée toujours comme la capitale de la région autonome du, dite autonome du Tibet, ont commis une auto-immolation. Et depuis ce temps-là, les autorités chinoises ont encadré, quadrillé et empêchent, soumettent sur la grande route qui mène jusqu'à Lhasa. Il y a jusqu'à 17 postes de sécurité. Hein, elle dit que c'est comme traverser un aéroport qui aurait la taille d'une nation comme les États-Unis, hein, aussi grande que les États-Unis. 17 postes de sécurité qu'il faut traverser. Alors évidemment, quand on est un Tibétain, on est forcément, a priori, elle dit, on est un terroriste potentiel. Donc, bien il sûr. Faut qu'on bénéficie d'une lettre de notre commune locale disant que nous n'avons commis aucun acte de... Enfin,
Il y a deux poids et deux mesures, malgré tout, parce que, donc, il y a la situation au Tibet, qui est une véritable situation d'occupation, oui, de colonisation, puisqu'ils installent aussi beaucoup de Chinois pur sucre.
Et puis, ils exploitent, les richesses terribles de la...
Tout à fait. Et alors, par contre, il y a les Tibets de l'extérieur, qui sont dans d'autres régions. Et le magazine Géo de ce mois-ci nous donne l'occasion de nous rendre compte que précisément il y a deux poids et deux mesures, puisqu'il y a un grand reportage sur l'Institut Larungar, qui est donc dans le Sichuan, je crois, c'est dans le Sichuan, qui est la...
Donc l'ancien Amdo, hein,
voilà. Et là, il y a donc un monastère qui regroupe toutes les tendances, puisque donc il y a plusieurs tendances dans le bouddhisme tibétain, donc... Et des milliers de gens, hommes, femmes y compris, alors beaucoup de femmes, étrangement, viennent là prier, s'initier, donc étudier. Et là, les Chinois ne les inquiètent absolument pas. Et donc, tout se passe au mieux, peut-être parce qu'il s'agit que de religion, précisément.
Oui, ça, c'est... C'est sûr que quand même, il y a des monastères qui sont très... Le monastère Kirti, hein, qui est donc dans le Sichuan, et qui est le monastère vraiment qui symbolise la révolte intérieure. Hein. Au Tibet, aujourd'hui, il y a une révolte intérieure, hein, dont l'épicentre est dans ce monastère. Et puis, il y a la résistance extérieure, hein, du Tibet dans la diaspora, avec sa capitale à Dharamsala. C'est sûr que ces deux résistances s'ajoutant... peuvent devenir très fortes et potentiellement très dangereuses pour les Chinois. Il faut savoir, vous parliez d'autres territoires, d'autres minorités qui résistent. C'est peut-être des minorités sur le plan du peuple. Hein. Les Tibétains, aujourd'hui, ne sont plus que 6 millions. Hein, donc, au regard des 1,3 milliard Chinois, c'est très peu. Mais il faut savoir que d'un point de vue territorial, si vous mettez ensemble, si vous rassemblez la République Ouïghour, hein, du Xinjiang, donc turcophone, la Mongolie qui est bouddhiste et le Tibet bouddhiste aussi, ces trois territoires ajoutés composent à peu près 60% du territoire chinois. Et un territoire extrêmement riche. Hein, quand les Chinois s'installent à Lhasa, ça n'est pas uniquement pour surveiller les Tibétains, c'est pour piller les ressources minières, c'est pour détourner les fleuves, les grands fleuves. Hein, tous les grands fleuves d'Asie ont leur source dans le Tibet.
C'est ça, on dit que c'est pour stocker le réservoir de la Chine.
Oui, le pays des, le mot Tibet en chinois voulait dire les grandes richesses de l'Ouest. Hein, le grand réservoir de l'Ouest, je crois. Donc c'est aussi ça. Hein, c'est aussi pour détruire un équilibre écologique dont nous-mêmes sommes les héritiers et les partenaires. Hein, donc il faut savoir que la question du Tibet, ça n'est pas qu'une question tibétaine. La question du Tibet, c'est une question universelle. C'est une question qui touche à notre patrimoine écologique mondial. Hein, donc nous sommes directement concernés.
Hein. Grand angle.
Eh bien, vous venez de me fournir une transition idéale pour parler justement de ces autres minorités qui recoupent, donc, qui représentent 60% du territoire chinois. On comprend qu'effectivement, les Chinois ne sont pas prêts de renoncer à leur projet d'unifier tout ça, de le lénifier en quelque sorte à la chinoise. Et donc, il y a beaucoup de minorités, mais enfin, il y a deux cas que l'on peut évoquer. C'est le cas de la Mongolie, donc, qui est donc un ancien État partagé en deux, Mongolie extérieure et Mongolie intérieure. et où là, on a quand même on a le résultat, puisque ça a commencé probablement avant, ou à peu près en même temps que le Tibet, si mes souvenirs sont bons, et où là, on a quand même un résultat, puisque les Mongols ont beaucoup moins résisté, bien que bouddhistes, et on a un résultat qui est assez catastrophique, puisque contrairement à ce que pourrait prétendre la Chine, ça n'a pas développé l'économie du tout. Puis peut-être aussi parce que culturellement, ce sont des nomades, donc ils n'étaient peut-être pas prêts à s'adapter complètement à la méthode chinoise et à une acculturation alors effarante. Pratiquement, ils ne seraient plus en état de pratiquer ni leur religion, ni leur tradition. Leur langue est en véritable déshérence. C'est une catastrophe.
Bien sûr. Surtout quand on pense à ce qu'a été la Mongolie. Hein. D'ailleurs, c'est curieux que vous parliez de ça, parce que si les Tibétains, au XVIe siècle, se sont développés, ont opté pour une modernité différente de la nôtre, c'est aussi grâce aux Mongols, parce que les Mongols, à l'époque, qui étaient les grands chefs militaires et les grands conquérants de toute l'Asie, étaient des bouddhistes. Et quand ils avaient conquis militairement et asservi une nation, dominé une nation, en général, ils demandaient, et la seule chose qui leur manquait, c'était les bénéfices d'ordre spirituel. Or, comme ils savaient que les Tibétains, que les grands maîtres tibétains existaient et faisaient des miracles, à l'époque, ils sont devenus bouddhistes et ils demandaient, après de grandes victoires militaires, de bénéficier de l'enseignement des maîtres. Et les Tibétains qui, eux, voulaient continuer à aller plus loin dans leur quête, justement dans leurs affaires de l'esprit, on dit aux Mongols, écoutez, on va faire un deal. Hein, nous, on continue à vous faire bénéficier de ce qu'on sait sur le plan de l'esprit. Et puis vous, vous nous protégez. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont renoncé, si l'on peut dire, à la protection de leurs propres frontières ou qu'ils les ont confiées à des gens extérieurs. Hein, et ce système, alors tant que ceux qui les protégeaient sur le plan militaire, territorial, étaient des bouddhistes, étaient favorables à leur système culturel et religieux, ça allait. Mais quand la Chine matérialiste, nationaliste, est devenue à remplacer les Mongols, ça a donné ce qu'on sait aujourd'hui. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes historiens tibétains renvoient à cette origine du Tibet et disent pourquoi et incriminent les grands maîtres en disant oui, vous avez renoncé aux affaires temporelles, c'est un tort, nous ne serions pas aujourd'hui entre les mains des Chinois si vous n'aviez pas fait ça. Donc vous voyez, les Mongols, c'était les grands maîtres de l'époque. Donc là, oui, vous nous donnez un cas absolument probant de l'échec foncier de la Chine comme force de progrès, si l'on peut dire.
D'autant que là, on a une comparaison, puisqu'on a donc une Mongolie qui est chinoise et qui est donc en très mauvais état, et puis une Mongolie autonome. Bien que sous la grande influence russe, quand même. Et qui fait que s'il n'y avait pas les Russes, je pense que les Chinois les auraient peut-être déjà envahis, à la manière des Russes d'ailleurs, d'une certaine façon, puisque ce qu'eux-mêmes font en Crimée. Mais on a quand même deux développements différents, et le développement de la Mongolie qui est chinoise et, comme on le disait à l'instant, tout à fait catastrophique. Alors, il y a une autre minorité. Alors là, la situation est un tout petit peu différente parce qu'il y a eu tout récemment un attentat terrible, en Chine, en l'occurrence, commis et revendiqué par les Ouïghours, donc qui est une minorité turcophone.
Oui, 10 millions de... Oui. De turcophones, enfin issus de qui respectent la culture d'origine turque. Oui.
Qui eux donc ne sont pas dans la non-violence, mais au contraire.
Encore que Ilham Loti, c'est ça, Toti, non? Ilham Toti, le grand leader, le porte-parole des Ouïghours, revendique complètement la non-violence. Hein. Alors ça n'est pas, c'est un leader, il est débordé peut-être. Hein,
parce que du coup, ça a complètement donné aux Chinois l'occasion d'intervenir de façon très dure, puisqu'il y a eu quand même pas mal de morts dans cet attentat.
Bien sûr.
29 personnes ont été tuées à l'arme blanche, à l'arme blanche en plus, dans la capitale du Yunnan, qui est la région natale de Mao Tse-tung.
Oui, mais ça, parce que ça a été visible, parce que ça a été très spectaculaire comme ça, mais le Tibet, c'est pareil. Hein. Il y a régulièrement des passages à l'acte, des passages par les armes des Tibétains. Alors, c'est sûr que, oui, effectivement, leur non-violence étant beaucoup plus généralisée, on remarque moins ces choses-là, mais...
Il s'agit quand même, pour les Ouïghours, il s'agit donc d'un pays islamique, qui pratique cette religion, qui ne passe pas pour être particulièrement non-violente.
Non, mais encore une fois, je vous dis, le grand leader de dissident de cette région, Ilham Tohti, qui est aussi en résidence surveillée, hein, lui devait partir pour répondre à l'invitation d'une université américaine dans l'Indiana, hein, et les Chinois l'ont cueilli à l'aéroport en lui disant « Non, tu retournes dans ton pays. » Il prône profondément la non-violence. Hein. Donc tout ça peut aussi... Il faut mesurer, c'est vrai que les Chinois ont intérêt à dire c'est de la violence et c'est un pays violent et c'est une rébellion violente, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Il y a toujours des éléments violents, bien entendu.
C'est un bon prétexte,
mais
en tout cas.
C'est un prétexte, oui. Comme pour le
Tibet. Article récent du Monde indiquait que, et démontrait qu'il pratique un véritable apartheid, quoi, dans le pays ouïghour.
Complètement.
Les colons, on peut dire ça comme ça, les colons chinois et les populations locales.
Et ça, c'est le cas de du traitement des Chinois de ces minorités, hein, même si en apparence, ils disent le contraire, il y a une université des minorités, mais tout ça est complètement... C'est un discours et ne correspond à aucune réalité pratique et quotidienne.
Mais alors, on peut se poser la question de... Quelle est l'issue de cette politique puisque non seulement elle ne semble pas marcher, en tout cas au Tibet, elle semble plutôt faire école. La résistance fait école. Donc, que peut donner une telle politique ?
Je crois que c'est vrai que c'est la peur. Je pense que les Chinois, d'une certaine manière, ont peur et qu'ils savent que sans doute, à terme, ils ne pourront pas maintenir une politique aussi violente et aussi négative à l'égard de ces nationalités, et qui réclament une autonomie culturelle. Hein. Encore une fois, le Tibet ne réclame pas du tout de faire sécession, même s'il l'a réclamé autrefois. Aujourd'hui, il est tout à fait apte à continuer. Alors, il réclame une chose intéressante, c'est la notion de génocide culturel, par exemple, que revendique le Dalai Lama, elle est propre au Tibet. Hein, il a souvent dit que le Tibet est une sorte d'État presque exemplaire, on pourrait en faire un laboratoire de la non-violence, on pourrait en faire un laboratoire de pratiques écologiques, de respect de l'environnement. Donc tout ça est très intéressant. Mais je crois que justement, si on résiste autant, aussi en Europe, en Occident, au Tibet, si finalement on se désintéresse assez bien de ce qui se passe au Tibet, c'est parce que cette notion de progrès de l'esprit et d'un esprit qui continue à se manifester, qui continue à revendiquer sa primauté sur la matière, ça nous dérange aussi, nous. Hein. Et je crois que si on est au fond si indifférent, c'est aussi peut-être pour ça, parce que qu'une modernité soit fondée sur le progrès de l'esprit et un esprit qui n'est pas réductible aux religieux, ça nous inquiète un peu parce que c'est très menaçant.
Thank you.
Voilà donc un bel exemple d'une tradition musicale mongole. Ce sont les inventeurs de la diphonie, c'est-à-dire le dédoublement de la voix pour obtenir cette espèce de son très particulier, très beau aussi, et qui nous plonge dans les immensités de la steppe d'Asie centrale. Voilà, je renonce à vous présenter la revue de presse parce que nous avons pris beaucoup de temps et ça, en tout cas, le sujet le méritait. Et donc, j'en parlerai probablement la semaine prochaine. En tout cas, merci Sylvie Crossman de nous avoir rendu visite avec ce très beau livre « Immolation au Tibet, la honte du monde » Tsering Woser, est paru donc aux éditions Indigènes. Et je voudrais quand même reciter donc le numéro de Géo de ce mois-ci, puisqu'il y est question du Tibet au pays du bouddhisme roi. Je voudrais vous reparler aussi du livre que j'ai cité en début, donc de Jean-Pierre Barou et Sylvie Crossman, « Tibet, une autre modernité » que je vous engage vivement à lire, passionnant. Et un tout petit livre qui est une manière de s'introduire au Tibet aussi, c'est « Le goût du Tibet », c'est un recueil de textes sur le Tibet que l'on doit au Mercure de France et à Jean-Claude Perrier qui a fait le choix des textes. Et pour finir, le Dalai Lama et Stéphane Hessel, « Déclarons la paix pour un progrès de l'esprit », qui est paru également dans la même collection que le livre sur les immolations, aux éditions Indigènes. Merci de nous avoir donc encore une fois rendu visite et éclairé sur tous ces problèmes. Ainsi s'achève Gulliver, une émission d'Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Le générique de l'émission s'est fait avec la complicité de quelques écrivains, complicité totalement involontaire, Edouard Glissant, Jean Echenoz, Jean-Marie Leclésio, Bernard Noël et Blaise Sandrard. Vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion à 17h ce jour ou la télécharger sur www.divergence-fm.org. À la semaine prochaine.
De temps à autre, il est bon et juste de conduire à la rivière la langue française.
Les incidents avec les chiens se multipliaient. Un autre jour, par exemple, on tomba sur un corps de pachyderme qui reposait là depuis va savoir quand.
Cette autre femme au visage doux, enfantin, aux yeux humides et profonds, au front haut et pur, cette femme vivante, dois-je la laisser dans son monde?
Au commencement, l'œil visita la moelle et je naquis. Un sexe émergea à l'opposé de l'œil pour regarder le temps.
Île où l'on ne descendra jamais, je lance mes chaussures par-dessus bord car je voudrais bien aller jusqu'à vous.